Il est 22h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
La preuve est faite dorénavant que c'était une intrigue politique dans le cas de M. Fillon, et c'en était une aussi dans mon cas.
C'est l'affaire qui enflamme la classe politique, et pas seulement Jean-Luc Mélenchon. La magistrate qui a mené l'enquête dans l'affaire Fillon témoigne des pressions qu'elle a subies. On fait le point sur ce dossier dès le début de ce journal. Ne pas crier victoire trop tôt, le virus circule encore en France, notamment en banlieue parisienne, à Sarcelles, où a débuté une campagne de dépistage massif.
On a une obsession, c'est de ne pas passer à côté d'une circulation active du virus.
Les membres de la Convention citoyenne ont adopté plusieurs propositions, dont la réduction à 110 km/h de la vitesse sur les autoroutes. Les votes vont se poursuivre jusqu'à dimanche pour valider ces mesures qu'ils souhaitent soumettre au gouvernement. De la musique sur scène, en live, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On sera en direct de l'Accor Hôtel Arena avec Angèle Châtelier à la fin de ce journal. Et puis le foot et la colère du vice-président d'Amiens. Comme Toulouse, son club devrait bien être relégué en Ligue 2 la saison prochaine.
Ils ont tout bricolé pour qu'on ne puisse pas jouer à 22. C'est pas une famille, ils ne pensent qu'à eux.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,42% à 4 979 points. Claire Lemaître de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Le temps sera estival demain, en tout cas au sud, encore un peu nuageux et parfois même pluvieux sur le nord, en particulier le nord-est. Les températures partout grimpent encore comme un avant-goût de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview est ce soir, Carole Ferry reçoit Jonathan Ziren, le directeur général de Clarins. Depuis la crise, on achète moins de maquillage, mais davantage de crèmes hydratantes avec des conseils beauté en ligne qui se développent.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La droite crie au scandale d'État après les propos de l'ancienne chef du parquet financier, cette procureure qui était en charge de l'enquête qui a fait tomber François Fillon en pleine campagne présidentielle en 2017. Devant des magistrats, elle a fait état de pression et décrit un contrôle très étroit de la part de sa hiérarchie. Immédiatement, bien sûr, les proches de François Fillon ont réagi. Mais il n'y a pas que la droite qui crie au scandale, c'est toute la classe politique qui s'en empare. Pour Marine Le Pen, c'est la partie émergée de l'iceberg. Jean-Luc Mélenchon, lui non plus, ne mâche pas ses mots.
La preuve est faite dorénavant que c'était une intrigue politique dans le cas de M. Fillon, et c'en était une aussi dans mon cas. Je suis comme tout le monde scandalisé. Après, ça ne veut pas dire que j'approuve ceci ou cela de M. Fillon et qu'on s'entende bien. Mais bon, ce sont des procédés indignes qui montrent ce qu'est la Macronie comme digne héritière de la Hollandie.
Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui en campagne au Havre avec Jean-Rémy Baudot. Alain Accaud, vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Ce soir, l'ex-procureur du parquet financier regrette que ses propos aient été déformés ou mal compris. Ça veut dire qu'elle ne parlait pas de pression politique ?
Non, il suffit de revoir son audition sur le site de l'Assemblée nationale pour constater que les pressions qu'elle dénonce, ce sont celles de sa supérieure hiérarchique directe, la procureure générale de Paris, nommée comme elle par la gauche, mais avec laquelle elle a toujours entretenu des relations exécrables. En fait, Éliane Houlette a profité de son audition devant la commission d'enquête pour régler des comptes personnels. Du coup, dans l'après-midi, pour clarifier les choses, elle a dû publier un communiqué dans lequel elle affirme que François Fillon n'a pas été mis en examen à la demande ou sous la pression du pouvoir exécutif. Sa rivale a aussi publié un communiqué dans le même sens. Pour ce qui est des remontées d'informations demandées quasi quotidiennement sur l'évolution de l'enquête, elles sont parfaitement légales. C'est le fonctionnement normal du parquet jusqu'à la direction des affaires criminelles et des grâces qui peut ensuite faire suivre au cabinet du garde des Sceaux. Et c'est bien cela qui entretient le soupçon et nourrit régulièrement la polémique. Du coup, ce soir, les syndicats de magistrats demandent à nouveau une réforme du statut du parquet afin de couper le lien avec le pouvoir politique.
Les précisions d'Alain Accaud, chef du service police-justice d'Europe 1. Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse à mesure que rouvrent les pays qui avaient mis en place des mesures de confinement. C'est ce que dit ce soir l'OMS. L'OMS qui rappelle que le virus continue de se propager rapidement et qu'il reste mortel. L'OMS qui a recensé hier plus de 150 000 nouveaux cas. C'est un record sur une seule journée depuis le début de l'épidémie. Attention donc à ne pas relâcher la vigilance. Les autorités sanitaires françaises rappellent également que le virus circule toujours dans notre pays. Le nombre de clusters progresse, même si tous, a priori, sont sous contrôle. Dans le Val-d'Oise, c'est une trentaine de nouveaux cas qui ont été détectés à Sarcelles en une semaine. Une grande campagne de dépistage est lancée. Nicolas Feldman.
Cet après-midi, comme depuis quelques jours, l'image nous ramène en plein mois d'avril, celle de cette tente blanche et ces personnes qui patientent pour un dépistage. Une campagne massive pour détecter les cas contacts et isoler au plus vite les éventuels nouveaux malades. Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS Île-de-France.
On a une obsession, c'est de ne pas passer à côté d'une circulation active du virus. On essaie notamment de comprendre quelque chose. C'est au fond, est-ce qu'on a une reprise d'une activité épidémique dans ce territoire ou est-ce qu'il y a eu tellement de cas et de contaminations à Sarcelles que quand on cherche, on trouve, mais au fond, peut-être, on est sur la décrue.
Pour être plus efficace, les autorités sanitaires ont contacté toutes les communautés locales de la ville. Les tests sont gratuits et sans rendez-vous.
On a réuni hier ces communautés pour leur demander de nous aider à passer ces messages. Quelquefois, le virus est reparti à l'occasion de rassemblements. Tout rassemblement de quelque nature qui soit comporte un risque, donc il faut repasser les messages.
Une campagne de dépistage qui n'est pas unique dans la région. Plus de 80 opérations de ce type ont été menées en Île-de-France ces trois dernières semaines.
Précision signée Nicolas Feldman pour Europe 1. Les autorités sanitaires italiennes appellent elles aussi ce soir à la prudence après plusieurs signaux d'alerte. Dans certaines régions, un nombre important de nouveaux cas détectés, notamment à Rome. Preuve que la circulation du virus là-bas aussi est encore importante. Notez que l'Assemblée de Corse a acté aujourd'hui la réouverture générale dès lundi de l'ensemble des établissements scolaire après avoir dans un premier temps prévenu qu'elle ne pourrait intervenir qu'en septembre.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et la Convention citoyenne sur le climat a planché toute la journée. Les 150 Français tirés au sort dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes. Leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique seront remises au gouvernement dimanche. Une centaine de mesures envisagées. Claudia Bertram, vous avez suivi les discussions. Ce qui a notamment fait beaucoup débat aujourd'hui, c'est l'idée de réduire la vitesse sur les autoroutes.
Oui, limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes a agité les discussions entre salles interposées. Mesures sanitaires obligent. Certains sont même en visioconférence, ce qui n'empêche pas les débats.
Moi, je suis tout à fait pour, bien sûr pour le climat, parce qu'on pollue moins, mais également pour qu'il y ait moins d'accidents de la route.
Je crains le report des véhicules sur les routes nationales et départementales.
La mesure a finalement été adoptée parmi un paquet d'autres propositions, ce que Sylvain tient à rappeler.
Ok, elle est clivante celle-ci. Elle va faire débat parce qu'elle impacte directement les gens et que les Français et leurs voitures, ben voilà. C'est... Mais le reste des mesures qui a été proposée, qui est débattue et qui va arriver à terme, c'est quand même une démarche systémique où les choses vont ensemble.
Les citoyens vont ainsi passer leurs propositions en revue jusqu'à demain avant de se pencher sur la question du référendum. Ils rendront leurs conclusions à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, dimanche. Et Marine se veut confiante.
Là, c'est la fin. La convention, c'est la fin de quelque chose, mais qui est un début d'autre chose, d'une envie de la part du gouvernement, des citoyens, concrète, de mettre en place les mesures qu'on aurait prises.
Emmanuel Macron recevra les 150 membres de la convention le 29 juin à l'Élysée pour apporter une première réponse à leurs propositions.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1 et Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Environnement, était l'invitée d'Europe 1 ce soir. Elle dénonce le possible usage du référendum sur certaines de ces mesures.
Tout le monde voit que c'est pas adapté. Si la question c'est de savoir si les Français veulent plus de protection de l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique, la question est oui. Il y a même des manifestations régulièrement des jeunes pour demander que ça s'accélère sur le réchauffement climatique. Donc, toute procédure qui ferait perdre du temps et qui serait simplement une manœuvre politicienne pour essayer de redorer un blason d'un gouvernement en difficulté, serait une mauvaise action. Ce ne serait pas conforme à l'intérêt du pays.
Ségolène Royal qui était l'invitée ce soir du grand journal de Nathalie Lévy sur Europe 1. Et puis, je vous parlais au début de ce journal de l'affaire Fillon. Eh bien, on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron saisit pour avis sur cette affaire le Conseil supérieur de la magistrature. On sera donc amené à en reparler, évidemment. Pas d'accord pour l'instant sur un plan de relance au niveau européen. Plan post-coronavirus afin de sortir le vieux continent d'une récession historique. Les dirigeants ont dialogué aujourd'hui en visioconférence. Ils ont constaté leurs divergences et doivent se revoir le mois prochain. À 10 jours du second tour des municipales, la campagne se poursuit dans un climat particulièrement délétère à Marseille. La bataille fait rage pour succéder à Jean-Claude Gaudin. D'après un sondage BVA pour Europe 1 et La Tribune que nous vous révélions dès ce matin, la candidate de la gauche, Michèle Rubirola, est en tête des intentions de vote à 35% contre 30% pour Martine Vassal, soutenue par Jean-Claude Gaudin. Nathalie Chevance, la droite est toujours empoisonnée par cette affaire des procurations frauduleuses et le candidat Rassemblement National, Stéphane Ravier, qui est donné à 20%, annonce qu'il se constitue partie civile.
Oui, et cette initiative, elle part du 6e secteur de Marseille, là où a éclaté le scandale des procurations dans un EHPAD. 51 procurations provenant de la même maison de retraite avec des résidents souvent atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans ce secteur, c'est la droite qui est arrivée en tête, à 1000 voix près, juste devant le RN et la liste de Franck Alizio, qui n'imagine pas que le scénario puisse se répéter au deuxième tour.
Ces procurations ont été valables au premier tour, mais valables aussi et signées pour le second tour. Vous comprenez bien que maintenant qu'on a constaté ces procurations illégales, elles ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas être valables au second tour. Donc il faut évidemment que ces procurations soient annulées pour le second tour. C'est une quinzaine de bureaux de vote où il y a eu des problèmes, c'est pas un acte isolé. Nos assesseurs ne sont pas là pour avoir des méthodes mafieuses sur leur dos.
Le RN qui pense déjà à déposer des recours à l'issue du deuxième tour, estimant que le résultat risque d'être faussé, position partagée par le candidat d'hiver droite, Bruno Gilles.
Moi j'ai une candidate qui était ma tête de liste dans le 9-10, elle a raté sa possibilité de se maintenir au deuxième tour de 50 voix. Ce qui veut dire que là, quand on parle de milliers de procurations qui auraient pu être délivrées dans le non-respect des règles et des lois, bah écoutez, ça remet en cause le premier tour.
Et c'est donc dans un climat de suspicion que les Marseillais iront voter dans 10 jours. Un scrutin qui s'annonce très serré.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Une nouvelle opération de police ce matin à Dijon après les violences entre communautés tchétchènes et maghrébines. Environ 140 CRS qui ont fouillé les lieux à la recherche d'armes, de munitions et de stupéfiants. Deux manifestations interdites demain à Paris, l'une justement à l'appel de la communauté tchétchène, l'autre à l'initiative de la Ligue de défense noire africaine. En revanche, la manifestation contre les violences policières aura bien lieu demain après-midi dans la capitale, comme dans plusieurs villes de France, Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg ou Toulouse. L'infirmière interpellée est placée en garde à vue pour avoir jeté des projectiles et insulté les forces de l'ordre mardi en marge d'une manifestation des personnels soignants. Cette infirmière a déposé plainte aujourd'hui contre les policiers auprès de l'inspection générale de la police nationale.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h11 et en foot, c'est le coup de massue pour Marseille, sanctionné pour non-respect du fair-play financier. Le club qui a déjà des problèmes d'argent devra payer 3 millions d'euros d'amende et en plus sera privé de 15% de ses recettes européennes pendant deux saisons. C'est énorme. L'OM qui, petite consolation quand même, pourra néanmoins jouer la Ligue des Champions. La Ligue 1, elle, se jouera à 20 clubs. Cette fois, c'est presque fait. 20 clubs et non 22, ce qui veut dire que ça sera sans Amiens et sans Toulouse qui continuent de batailler, y compris en justice, pour éviter cette relégation. Cyril de la Morinerie.
En tout cas, le conseil d'administration de la Ligue s'est penché sur le format. C'était une injonction du Conseil d'État et il a décidé ce matin, à l'unanimité moins deux abstentions, de maintenir la Ligue 1 à 20 clubs comme il l'avait déjà fait le 30 avril dernier. Ce qui veut dire que le club Picard est relégué, tout comme Toulouse. Colère et indignation en Picardie, mais le vice-président d'Amiens, Luigi Muladzi, n'est pas étonné par ce verdict.
C'est tout sauf une surprise. Ils ont tout bricolé pour qu'on ne puisse pas jouer à 22. Parce que le Conseil d'État a demandé à ce qu'ils revoient le format. Mais ils ne l'ont pas revu. Ils ont détricoté l'argumentaire pour dire on ne peut pas jouer à 20. Donc ils n'ont même pas réfléchi. Et lorsqu'on me parle de famille de football, c'est pas une famille. Ils ne pensent qu'à eux.
Pour la forme, l'Assemblée Générale de la Ligue validera mardi prochain cette décision. Vendredi, l'Assemblée Fédérale de la FFF devra elle aussi donner son feu vert avant de recueillir la signature de la ministre des Sports. Amiens prévient qu'il continuera son combat judiciaire. Le club Picard pourrait de nouveau solliciter le Conseil d'État en urgence.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le sport et l'argent encore. Neymar condamné à payer près de 7 millions d'euros au FC Barcelone. La justice espagnole a débouté l'attaquant brésilien qui réclamait au Barça le versement de plus de 43,5 millions de primes de prolongation non perçues après son transfert au PSG. Assister à un concert, vous en rêvez ? Eh bien, certains l'ont fait ce soir à Bercy. L'Accor Hotel Arena a rouvert ses portes pour donner le coup d'envoi de la fête de la musique qui aura lieu dimanche, avec une quarantaine d'artistes sur scène, tout cela devant les caméras de France 2 et devant un public forcément réduit, public dont vous avez la chance de faire partie. Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir.
Racontez-nous.
Alors d'un côté, c'est une sensation terriblement excitante de revenir dans une si grande salle de concert. Et de l'autre, on ressent bien que le Covid-19 est passé par là. Dans les tribunes, ça fait vide. Hein. Nous sommes 2000 spectateurs ce soir, tous masqués. Il faut vous imaginer que normalement, un Accor Arena complet, c'est 20 000 personnes. Le plus marquant, ce sont les six grands écrans disposés devant des tribunes condamnées qui diffusent des images de vraies foules. Mais alors les applaudissements s'entendent quand même. Il y a des holas, tout le monde est debout. dansent sans se mélanger. Tous les spectateurs que j'ai croisés sont simplement heureux de remettre les pieds dans une salle de concert, même s'il faut respecter les règles sanitaires.
Ça fait 3 mois que j'attends ça, j'en peux plus là.
De voir distanciation, masque et tout ça, ça vous fait quoi?
Je suis habituée au boulot, on est masque en permanence, distanciation sociale, donc ça change pas grand chose. Et puis au moins, profite quand même du concert.
Ce qui change tout de même, c'est la disposition de la scène. Normalement, elle est devant le public, mais là, en réalité, il n'y en a pas. La scène, c'est la fosse, et elle est séparée en deux par des écrans. De chaque côté, il y a 2 gros cœurs lumineux sur le sol. Les artistes jouent dessus. Donc quand un concert a lieu à gauche, les tribunes de droite ne voient rien. Et vice-versa, changement de plateau oblige. Au-delà d'être le premier gros concert en public, c'est aussi une émission de télévision.
Merci à vous en tout cas, Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1, en direct de l'Accor Hôtel Arena. Et tout ça, c'était une sorte de mise en bouche hein, avant la fête de la musique dimanche. Attention, là aussi, ce sera un peu particulier. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans la rue. Les concerts spontanés interdits sauf dérogation. Il y aura quand même des concerts dans les bars ou dans les restaurants. La Philharmonie de Paris proposera quant à elle des concerts gratuits en plein air dimanche sur les escaliers. Et puis à 21h15, Jean-Michel Jarre a prévu uniquement sur Internet un concert en réalité virtuelle pour une immersion totale retransmise à travers le monde entier. C'est la première fois que ce type d'expérience s'effectuera en direct. Il paraît que ça sera exceptionnel. On a hâte de voir ça. Et on a hâte également d'écouter les prévisions météo d'Anissa Haddadi. Anissa, comme un avant-goût d'été.
Et ça tombe bien Isabelle, parce que cette année, à cause du positionnement de la Terre, eh bien, l'été va débuter sur le calendrier, non pas le 21 juin comme d'habitude, mais bien demain, le 20 juin. Alors la météo, elle va suivre le calendrier, elle est plutôt docile puisque demain, il fait beau presque partout. Attention tout de même, demain matin en Bretagne, en Alsace-Lorraine, des petites averses sont encore possibles sous un ciel assez nuageux. Et puis dans l'après-midi, le risque d'averses, il va s'étendre à l'est des Ardennes jusqu'aux Alpes du Sud, tout le long des frontières de l'Est, avec encore un risque d'orage en altitude. Si vous n'habitez pas le long des frontières de l'Est, eh bien demain vous aurez droit à une journée plutôt agréable, avec sur le quart nord-ouest en Bretagne et Normandie demain, en fin de journée un petit peu plus de nuages, mais le temps reste sec et le mistral qui se lève hein, dans le sud également. Les températures, elles commencent tout doucement à remonter, vous allez peut-être le sentir, avec 8 degrés à Limoges demain matin, 10 à Nantes, Metz et Colmar, 11 à Besançon, 12 à Toulouse et Lorient, 14 à Paris, 16 à Nice. Et puis dans l'après-midi, là aussi, on va sentir un léger mieux. 20 à La Rochelle, 22 à Belfort et Aurillac, 23 à Lille et Clermont-Ferrand, 25 à Paris, 27 à Lyon et la maximale est prévue pour Nîmes avec 31 degrés. Et préparez-vous, la semaine prochaine, nous serons quasiment tous les jours au-dessus des 30 degrés.
Aïe, aïe, aïe. La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, c'est la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com et puis l'invité de Carole Ferry qui reçoit ce soir le directeur général de Clarins. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Pour vous, Dacia se mobilise. Si vous voulez entretenir la climatisation de votre Dacia en toute sécurité, on a tout prévu. Nos ateliers ont été entièrement repensés pour respecter les mesures sanitaires à chaque étape de l'entretien. Et en ce moment, la recharge climatisation est à partir de 59 euros. N'attendez plus. Prenez rendez-vous en ligne dans l'un de nos 4000 ateliers pour en profiter. L'entretien Dacia. Des offres vraiment utiles à votre Dacia. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 août 2020. Retrouvez les engagements du réseau Dacia, prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr.
Il est 22h18, place à la bourse, comme tous les soirs à cette heure-ci avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et la séance avait bien démarré à Wall Street, mais les craintes du coronavirus prennent décidément toujours beaucoup de place.
Oui, encore une séance délicate. Le Dow Jones 7,08%, 25 872 points. Le Nasdaq est stable, plus 0,03%, 9 946 points. Le problème, c'est que les chiffres ne sont pas bons. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie accélère et surtout aux États-Unis et en Amérique latine. Et cette montée des cas touche directement un des poids lourds de Wall Street. Ce soir, ce poids lourd, c'est Apple qui va de nouveau fermer provisoirement une dizaine de boutiques pour raisons sanitaires dans plusieurs États américains où le virus circule. Apple perd donc 0,5%. Les compagnies de croisière aussi sont concernées. Leur activité est suspendue jusqu'à mi-septembre aux États-Unis alors qu'elle devait reprendre en juillet. Du coup, Carnival perd 5% ce soir. Royal Caribbean Cruise lâche près de 7%. Le pétrole poursuit son rebond dans l'espoir d'un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Le WTI gagne 1,8%, 39,55 $ le baril.
Et le marché parisien, Claire, lui, termine en hausse malgré un petit coup de mou en fin de séance.
Oui, un petit coup de faiblesse, sans doute lié aux annonces de l'OMS sur le nombre de cas records de coronavirus recensés dans le monde. Donc, le CAC 40 ne gagne que 0,4%, 4979 points. Sodexo s'adjuge 1,5% pour sa dernière journée au sein de l'indice CAC 40. Le groupe de restauration collective sera remplacé par Téléperformance à partir de lundi. Et puis plus 0,9% pour L'Oréal, le géant des cosmétiques, a conclu un accord pour l'acquisition de Tyers. C'est une marque américaine de soins pour la peau qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 44 millions de dollars.
Et en tout cas, Claire, on peut dire que cette semaine aura été compliquée pour le titre Renault.
Ouais, c'est encore du rouge ce soir pour Renault, moins 1,9%. Le constructeur automobile prévoit un quadruplement de sa production de véhicules électriques en France d'ici 2024. Déclaration du président Jean-Dominique Senard lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Repli aussi ce soir pour son concurrent Peugeot, moins 2,3%. La semaine se termine en hausse en Europe avec un gain de plus de 1% pour Londres et de 0,4% pour Francfort. Madrid gagne 0,3, Amsterdam plus 0,9, Milan plus 0,7, plus 0,4% pour le CAC 40 qui termine à 4979 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon toujours très complet. Claire Lemaître de Boursier.com, on vous souhaite un bon week-end. Et c'est l'heure de l'invité éco. Carole Ferry, vous recevez ce soir le directeur général de Clarins.
Jonathan Zrienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le groupe de cosmétiques Clarins, une entreprise française créée en 1954 et spécialisée donc dans les soins de la peau, du visage, mais aussi le maquillage. Vous faites partie de ces entreprises solidaires qui ont rapidement adapté leur production aux besoins en pleine crise du coronavirus. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre fonctionnement ?
Écoutez, très vite, nous avons vu que nous pouvions participer à l'effort sanitaire compte tenu de l'importance du combat qui était mené. Et en effet, nous avons dédié notre outil de production, notre usine à Pontoise, pour qu'elle puisse produire en grande quantité et offrir à tous les hôpitaux du gel hydroalcoolique. Et nous avons réussi à produire 12 à 14 tonnes de gel toutes les semaines et pu livrer donc 1 million de flacons sur la période à des hôpitaux et des EHPAD. Aussi, nous sommes rendus compte que l'utilisation intensive de gel hydroalcoolique dans les services médicaux avait un impact négatif sur le film hydrolipidique de la peau et donc de la main, et le port de masque aussi sur l'hydratation du visage. Et donc nous avons décidé d'offrir au personnel soignant des crèmes mains, donc des tubes de crème main, ainsi que des crèmes visage pour les accompagner dans leur combat.
Est-ce que vous continuez aujourd'hui à produire ce gel hydroalcoolique ?
Alors nous avons encore des stocks que nous livrons. On a réduit la production parce qu'il y a moins de demandes en fait. Et donc on a toujours une ligne de production qui est dédiée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de demandes aujourd'hui, donc nous utilisons plutôt les stocks que nous avons.
Donc vous avez recommencé à produire normalement comme vous le faisiez avant la crise ou vous avez encore une activité réduite ?
On est encore en activité réduite parce qu'il faut réouvrir toutes les lignes de production. Nous avions arrêté toutes nos lignes de production pendant les 3 mois en dehors du gel hydroalcoolique et une ou deux lignes nécessaires. Et donc nous sommes aujourd'hui à peu près 60%. Et nous espérons atteindre 100% dans les prochaines semaines.
Alors vous avez aussi eu du chômage partiel dans vos équipes et vous avez décidé de ne pas demander le remboursement des salaires à l'État. Là aussi, c'est une question de solidarité envers les comptes publics ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec la famille Courtin-Clarins, compte tenu de la situation financière de l'entreprise, nous avons estimé que les soutiens de l'État devaient en priorité favoriser et aider les petites et moyennes entreprises. Et donc, nous avons pris la décision de ne pas faire appel à ces dispositifs.
Est-ce que vous avez tiré des expériences de cette période ? Est-ce que ça vous a amené à innover ?
Oui, alors je dirais que, en fait, on sort de cette crise renforcé sur des convictions que nous avions. C'est-à-dire que les soins, les produits de soins, sont des produits qui se consomment de plus en plus sur les plateformes digitales. Donc cela nous pousse à continuer à offrir dans tous les pays du monde, sur nos plateformes digitales, la possibilité d'acheter les produits Clarins. Mais au-delà de l'achat des produits, on passe finalement à un autre niveau de relation digitale, puisque les sites n'ont plus vocation à être uniquement transactionnels, parce qu'ils ont maintenant vocation à être aussi des sites de services. Parce que pendant la crise, l'autre priorité que nous avions, c'était de préserver le lien étroit avec nos clients. Et justement parce que nos clientes et nos clients étaient confinés, nous avons développé des services sur nos plateformes digitales pour interagir avec nos clients et offrir la possibilité de contacter nos conseillères de beauté, nos esthéticiennes. On a ouvert un concept qui s'appelle Clarins et moi, ou Clarins et demi à l'international. Et en fait, nous avons demandé à nos vendeuses, qui pour certaines ne pouvaient plus aller dans les points de vente, de prendre des appels. Et on a eu jusqu'à 60 à 100 appels par jour de personnes qui nous appelaient pour avoir des rendez-vous beauté individualisés, personnalisés, de 15 minutes, une demi-heure, et de répondre à des questions. En fait, nous avions comment reproduire un spa à la maison, comment garder un corps tonique, des questions sur la peau, comment s'occuper de sa peau en étant confiné. En fait, nous avions comme ça développé plusieurs thèmes et c'était une manière pour nous d'envisager aussi, vous parliez des changements un peu structurants de cette crise, de voir que finalement, beaucoup de métiers dont parfois on ne sait pas ou on ne savait pas comment on allait pouvoir accompagner la digitalisation en fait de ce monde, on se rend compte que certains de ces métiers arrivent aussi à interagir via des plateformes digitales. Donc une conseillère de beauté très bien formée qui a l'habitude d'interagir dans un point de vente, on s'est rendu compte et on va l'utiliser de plus en plus, qu'elle peut aussi interagir avec nos clientes via les plateformes digitales. Et ça, c'est plutôt encourageant.
Et alors justement, est-ce que cette période a changé vos modèles de vente sur le maquillage? Il paraît qu'on achète beaucoup plus de mascara et beaucoup moins de rouge à lèvres à cause des masques.
Oui, alors on a vu en effet des ventes plus fortes sur le mascara, les ombres à paupières, sur des produits de teint, beaucoup moins sur le rouge à lèvres. Il faut savoir quand même que le rouge à lèvres, c'est souvent aussi un achat d'impulsion. Après avoir testé, il n'y a plus de testeurs de rouge à lèvres. C'est très difficile, pour des raisons sanitaires, de laisser les testeurs. Donc on donne des échantillons, donc peut-être que la personne a moins envie de l'acheter sur le moment. En revanche, comme nous, Clarins, nous vendons aussi beaucoup de produits de soins, nous avons vu plutôt un intérêt porté sur les produits de soins, plus que le maquillage, avec plus particulièrement des produits hydratants pour le visage, des produits hydratants pour les mains, sans doute liés à l'utilisation de gel hydroalcoolique, des produits hydratants pour le corps et surtout une accélération de ces ventes sur nos sites qui ont permis d'absorber le choc. Puisque malgré les magasins, fermeture des magasins, nous avons pu nous doubler notre chiffre d'affaires sur nos plateformes digitales.
Eh bien Jonathan Zrien, merci. Je vous souhaite une excellente soirée.
Je vous remercie. Au revoir.
Et merci à vous Carole Ferry. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. On voit quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant. À tout de suite. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Pression dans l'affaire Fillon, l'onde de choc judiciaire, titre Le Figaro. Les déclarations de l'ancienne chef du parquet national financier devant une commission d'enquête parlementaire ont relancé le débat sur l'indépendance de la justice. On en parlait tout à l'heure dans notre journal. Alors que l'on a appris en cours de journal justement qu'Emmanuel Macron avait décidé de saisir pour avis le Conseil supérieur de la magistrature pour analyser si le parquet national financier a pu exercer son activité en toute sérénité, sans pression lors de cette enquête sur l'affaire Fillon. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée tout à l'heure. Emmanuel Macron, qui est attendu au tournant devant la copie de la Convention citoyenne, écrit Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Lui dont la mue verte manque encore de crédibilité pour beaucoup. Quelques propositions citoyennes devraient faire tousser certains Français, comme les autoroutes à 110 km/h ou bien la semaine de 28 heures défiant les lois économiques actuelles. Nulle trace du dossier nucléaire ou encore de la taxe carbone, dont la simple évocation revient en France à gratter une allumette en pleine canicule. Personne ne peut plus aujourd'hui se prétendre étranger à la Terre, son sort étant le nôtre, mais personne ne devrait faire semblant, alors que la crise économique en fait la démonstration, de ne pas savoir qu'une décroissance mal maîtrisée peut faire basculer une part de l'humanité dans la précarité. Le défi est double et indissociable, écrit donc Florence Chédotal dans La Montagne, alors que pour Ouest-France, climat, les citoyens sont à l'heure du choix. Tout autre sujet, à l'histoire. l'alimentation, la folie du steak sans viande, écrit Le Parisien aujourd'hui en France. Les steaks végétaux envahissent les rayons des supermarchés. Derrière ce phénomène, une véritable industrie qui soulève de nombreuses questions. Don du corps, le scandale des morts, la colère des vivants, c'est le titre de Libération après les révélations sur les conditions indignes de conservation des dépouilles à l'université Paris Descartes. Le journal a rencontré des familles révoltées, beaucoup ont porté plainte, elles racontent leurs cauchemars et leur colère, alors qu'un rapport vient de confirmer de graves manquements de l'université. Et puis les hôtels ne font pas leur nuit, titre L'Est éclair. Dans l'aube, les hôteliers attendent les clients et sont très inquiets pour l'avenir. Tous les établissements n'ont pas encore rouvert et ceux qui l'ont fait sont loin de faire le plein. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h30, l'heure de retrouver Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Isabelle.
Très belle émission à vous, toujours le 39-21 bien sûr pour vous joindre.
Merci, on vous retrouve à 23h pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.